Et c'est l'heure du journal, présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump ne mâche pas ses mots. L'armée américaine va devenir plus forte que jamais, prévient-il. Et si les États-Unis sont menacés, ils n'auront pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Grégory Phillips a écouté le président américain. Les Rohingyas réfugiés au Bangladesh doivent pouvoir rentrer en Birmanie. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi se dit désolée pour les souffrances des civils, sans apporter de réponse concrète à leur situation. La Dominique, située entre la Martinique et la Guadeloupe, a subi de plein fouet l'ouragan Maria. Il y a deux ans, l'île avait déjà été ravagée par la tempête tropicale Erika. Coup d'envoi des assises de la mobilité à Paris. Elles doivent permettre de repenser notre modèle de transport et aboutir début 2018 à une loi d'orientation. Mais les budgets seront contraints, nous expliquera Véronique Rebérotte. Je placerai toujours l'Amérique d'abord. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump montre les muscles. Le président américain menace de détruire complètement la Corée du Nord, promet de démasquer les pays qui soutiennent les groupes terroristes et il qualifie de honte l'accord nucléaire avec l'Iran. Bref, Grégory Phillips, vous avez vu un Donald Trump fidèle à lui-même.
40 minutes de discours et sur le dossier le plus chaud aux yeux des Américains, la Corée du Nord, Donald Trump a tapé fort. Ce régime dépravé menace la sécurité de tous, dit le président des États-Unis.
No nation on earth.
Aucune nation n'a intérêt à voir cette bande de criminels obtenir l'arme nucléaire. Les États-Unis sont forts et patients, mais si nous sommes obligés de nous défendre, nous ou nos
alliés,
nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Rocketman, l'homme fusée, est suicidaire pour lui et son régime.
The United States is ready.
Les États-Unis sont prêts, disposés et en mesure d'intervenir, mais j'espère que ça n'arrivera pas. C'est de ça dont il s'agit à l'ONU, c'est à ça que servent les Nations Unies. L'Iran est également visé dans le discours de Trump. Cette dictature corrompue, ce régime meurtrier qui finance le terrorisme, dit le président américain. L'accord avec Téhéran sur le nucléaire est le plus mauvais jamais passé, conclut Trump, mais qui ne précise pas si les États-Unis vont s'en retirer ou non.
Grégory Phillips au siège des Nations Unies à New York. Après le discours coup de poing de Donald Trump, la pensée complexe d'Emmanuel Macron, le président français doit s'exprimer à son tour devant les Nations Unies. Il a promis aujourd'hui de ne rien céder aux équilibres de l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron poursuit le dialogue avec son homologue américain dans l'espoir de le faire revenir sur sa décision de sortir de l'accord. Ça n'est pas gagné. Nouvelle illustration des effets du réchauffement climatique, la violence de l'ouragan Maria. L'alerte violette vient d'être déclenchée à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, déjà très éprouvés suite au passage d'Irma. Béatrice Duguay nous dit comment les habitants de Saint-Martin vivent cette nouvelle alerte.
Une sorte d'apesanteur agité. Voilà dans quelle ambiance Saint-Martin vient de passer la matinée. Apesanteur parce que les rues étaient presque désertes, interdiction de circuler à peu près respectée. Quelques personnes quand même pour aller chercher de l'eau à la citerne, comme Makou. Paradoxalement, elle s'inquiète plus aujourd'hui pour sa maman que pour elle. Elle est en Guadeloupe. L'ouragan est très destructeur sur Basse-Terre. Maintenant, j'ai perdu le contact avec elle. Je ne sais rien. On n'a plus qu'à prier Dieu que tout se passe bien. Apesanteur donc, agité parce que le vent souffle en rafale assez forte par moment quand même. Et surtout que le déblaiement des encombrants est activement poursuivi. Ces jeunes du service adapté, par exemple, à l'ouvrage sur Sandy Ground où les monceaux d'arbres et de ferrailles sont dangereux.
Tous les poteaux électriques qui sont menaçants, qui sont prêts à tomber. Tous ceux qui sont sur les toitures de maison. Donc ça, tout ça, on enlève ça et les lignes électriques par la même occasion en fait. Hein, parce que les lignes électriques, ils sont encore rattachées, mais ils peuvent provoquer des dégâts aussi. Hein, ils sont tendus, donc si jamais ça lâche, du coup, on fait les urgences et puis après, on voit particulier par particulier ceux qui ont besoin d'aide.
Aux dernières nouvelles, Maria passe plutôt au sud-ouest de Saint-Martin et de Saint-Barth. Et c'est une bonne nouvelle pour Nicolas, résident du Grand Saint-Martin, un costaud au bord de l'épuisement.
Exténué, c'est la, je sais pas, la 10 ou 12e nuit qu'on dort que 2 ou 3 heures. On a fait tous les préparatifs parce que hier soir, ils nous annonçaient que c'était classe 5. Le problème, c'est qu'on a épuisé toutes nos lignes de défense. Et maintenant, j'étais très combatif depuis 15 jours. Maintenant, c'est advienne que pourra.
Confinement ici jusqu'à 6h du matin, heure locale.
Maria s'est éloignée des côtes de la Guadeloupe dont les habitants sont toujours confinés. Il n'y a apparemment pas de dégâts majeurs en Martinique. En revanche, la Dominique, qui se situe entre la Guadeloupe et la Martinique, a subi des dégâts considérables. Selon le Premier ministre Roosevelt Skerrit, l'île a perdu tout ce qui pouvait être perdu. Nous sommes profondément désolés pour les souffrances de tous ceux qui se sont retrouvés pris au piège de ce conflit, extrait du discours d'Aung San Suu Kyi ce matin. Restée longtemps silencieuse sur le sort des Rohingyas qui se sont réfugiés par dizaines de milliers au Bangladesh, la dirigeante birmane s'est exprimée aujourd'hui en anglais, signe qu'elle s'adressait avant tout à la communauté internationale. Aung San Suu Kyi se dit prête à organiser le retour des réfugiés en Birmanie sans préciser comment ce serait possible. À Rangoon, Rémi Favre a rencontré un homme politique Rohingya. Kim Maung-Mint n'est pas rassuré du tout, il est même en colère.
Son discours était éloigné de la réalité. Elle a dit que les musulmans rohingyas avaient des droits égaux à la majorité en termes d'accès à l'éducation et à la santé. Elle n'a pas dit la vérité, parce que les rohingyas ne peuvent pas aller dans des écoles toutes simples. Et ne parlons pas de l'université. L'accès aux soins de santé, presque rien du tout. Comment peut-elle se présenter au monde et dire que nous sommes traités sur un pied d'égalité avec la majorité? Ça n'a rien à voir avec la réalité. Presque un demi-million de rohingyas ont fui au Bangladesh. Est-ce qu'ils sont allés faire un pique-nique? Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi ils fuyaient. Mais c'est à elle de nous le dire. C'est elle la dirigeante. Je lui conseille d'y aller elle-même et de nous le dire. Et là, elle va comprendre s'ils sont partis pour le plaisir ou pour sauver leur vie. Nous voulons des actes, pas juste du bluff.
Et au-delà des Rohingyas, une autre minorité qui vivait jusque-là paisiblement en Birmanie pourrait bien se retrouver fragilisée. Le journaliste Thierry Falise, qui connaît bien le pays, a fait part de ses inquiétudes à Nadine Epstein.
Au-delà du problème des musulmans Rohingyas, le risque aussi c'est que la haine anti-musulmane qui se propage et qui est en train de se développer, notamment sous le joug d'extrémistes bouddhistes, hein, parce qu'il y a tout un mouvement d'extrémistes bouddhistes, la haine anti-musulman risque de s'étendre à une autre minorité musulmane dont on parle très peu, et qui elle est absolument légale, qui a la citoyenneté birmane depuis des décennies, et qui représente à peu près un peu plus de 2 millions de personnes. Alors ce sont des musulmans qui vivent de façon un peu communautariste, hein, à l'anglo-saxonne, dans quasiment toutes les villes de Birmanie. Vous avez un quartier musulman, si vous voulez. Les communautés musulmanes et bouddhistes vivent en relativement bonne entente. Elles ne se mélangent pas, mais elles vivent en bonne entente. Et là, il y a déjà eu des incidents extrêmement graves dans le centre du pays, dans l'état Shan, dans le grand état du Nord. Des extrémistes bouddhistes et des musulmans en sont venus aux mains, puis ça a dégénéré, ça a provoqué déjà la mort quand même d'une bonne quarantaine de personnes. Et donc, quand je rencontre des Birmans, j'entends souvent des propos qui sont bien éloignés des propos anti-Rohingyas, mais qui s'adressent plus largement à tous les musulmans du pays, si vous voulez. Il risque d'y avoir des débordements anti-musulmans de façon plus générale et non plus uniquement dirigés vers les Rohingyas.
Le journaliste Thierry Falise, spécialiste de la Birmanie. La Chine ne respecte pas ses promesses. Les entreprises européennes se plaignent des barrières et des incertitudes qui découragent toujours l'investissement en Chine. Pourtant, à Davos, le président Xi Jinping avait promis d'ouvrir en grand les portes. La Chambre de commerce européenne rend public aujourd'hui un rapport prouvant combien le marché chinois est fermé et réclamant des actes à la place des mots. Les précisions de Dominique André à Pékin.
Lassé des promesses, connaissant bien la litanie d'engagements jamais matérialisés, c'est avec ces mots et ce ton désabusé que parlent les entreprises européennes réunies sous la casquette de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. L'inquiétude sur le manque d'ouverture du marché chinois est encore plus palpable en ce moment avec l'affaire du fromage français. Brie, camembert et autres roquefort sont bloqués depuis des semaines dans des conteneurs interdits d'importation en Chine pour des raisons sanitaires. Faire tomber les barrières en tout genre, pour la Chambre de commerce, il est temps d'éliminer les discriminations qui visent les entreprises à capitaux étrangers. Le manque de réciprocité n'est pas politiquement tenable, insiste le président de la Chambre, Mats Harbon. En 2016, les investissements chinois ont progressé de 77% en Europe, tandis que les investissements européens en Chine ont plongé de 23% au premier semestre 2017. Les motifs d'inquiétude s'amoncellent.
Repenser le système de transport français, favoriser les vélos électriques et le covoiturage, c'est ce que doit permettre la loi d'orientation des mobilités début 2018. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, et le Premier ministre, Édouard Philippe, ont lancé cet après-midi les Assises de la mobilité à Paris. Elles vont durer 3 mois et doivent faire émerger une vision stratégique de la mobilité en France. Véronique Rebérot, vous êtes sur place. Alors, les ministres promettent d'être pragmatiques, de répondre concrètement aux besoins de transport des habitants, mais en faisant attention aux dépenses.
Oui, c'est ça. Il faut ni plus ni moins, en tout cas, qu'une révolution dans les transports au quotidien, donc des Français. Plus de sobriété, comprenez moins de pollution, des économies, plus de souplesse et de rapidité, de sûreté aussi. Un vaste chantier, donc, présenté par le Premier ministre, qui passera par une vaste consultation, 3 mois, eh bien, pour faire remonter des territoires, à travers toute la France, le quotidien des Français dans les transports et améliorer ce quotidien à travers une future loi mobilité. Alors, qui dit transport dit aussi grands projets, comme de nouvelles lignes TGV, Bordeaux-Toulouse, par exemple, de nouvelles routes ou tunnels, le Lyon-Turin. Et là, Édouard Philippe s'est montré un peu moins enthousiaste.
Nous avons, collectivement, beaucoup trop promis. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup trop. Sur la durée du quinquennat qui commence, si on voulait simplement faire ce qui a été promis, il nous manquerait environ 10 milliards d'euros. 7 milliards pour financer les nouveaux projets pour lesquels l'État s'est engagé, 3 milliards pour assurer la maintenance des réseaux. Alors, on peut continuer à promettre, mais en poussant toujours plus loin, toujours plus fort, la boule qui grossit devant nous, nous ne nous rendons pas service. Et nous ne rendons pas service, non pas simplement aux gouvernements qui suivront, mais à nos concitoyens qui seront là. Avec le président de la République, nous avons fait le choix inverse. Celui de la sincérisation de nos engagements. Sincérité des promesses, sincérité des financements, sincérité des intentions, sincérité des objectifs.
Et pour financer ces infrastructures dont on comprend que certaines pourraient être remises en cause, il faudra bien trouver de nouvelles sources de financement. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a redit qu'il serait par exemple normal que le transport routier, le transport des poids lourds, participe à l'effort national.
Véronique Rebérotte en direct des Assises de la Mobilité avec Benjamin Puot pour les moyens techniques. Deuxième journée de séminaire pour les 313 députés du groupe La République En Marche, auquel s'est joint l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Ils préparent ensemble la session extraordinaire qui commencera lundi prochain à l'Assemblée nationale. Il leur faut travailler sur le fond, le projet de loi de sécurité intérieure, puis les projets de budget de l'État et de financement de la sécurité sociale. Mais les nouveaux députés ont aussi encore beaucoup à apprendre sur la forme, notamment sur la façon de s'adresser aux médias, Stéphane.
Oui, c'est l'un des nombreux problèmes que rencontrent ces tout nouveaux députés, La République En Marche. Comment parler aux journalistes? Comment répondre quand on ne connaît pas le sujet sur lequel on vous interroge? Beaucoup sont terrifiés et au cours des premières semaines, il y a eu une période de flottement qu'a volontiers reconnu tout à l'heure à l'issue de ce séminaire le président de groupe, le député du Finistère, Richard Ferrand.
Il y a eu un moment de flottement qui a permis des digressions à l'infini sur le noviciat, sur l'amateurisme, sur je ne sais quoi. Donc, vous savez, nous ne serons jamais comme les autres. Mais peut-être faut-il que vous nous regardiez un peu autrement, et pas simplement comme vous regardiez tout le monde depuis si longtemps.
Au-delà de l'agacement et du sarcasme, il faut peut-être en effet considérer qu'il y a des différences entre beaucoup de jeunes et nouveaux députés La République En Marche et les anciens, ceux qui étaient là depuis parfois quelques dizaines d'années. Dans le monde d'avant, entre guillemets, on se faisait d'abord élire conseiller municipal, puis conseiller départemental ou conseiller régional, et enfin, après quelques années de pratique, notamment avec la presse locale, député. Avec Emmanuel Macron, ça ne s'est pas passé comme ça. Beaucoup ont vu de la lumière, ils sont entrés et se sont fait élire députés. C'est pourquoi, selon l'un des porte-parole du groupe, le député de Paris, Gilles Legendre, il est nécessaire de faire de la formation, notamment du média training, et il n'y a pas, selon lui, à en avoir honte.
Vous savez, c'est totalement inédit qu'un groupe parlementaire mette en place ce genre de programme en son sein. Donc les mêmes qui nous taquinaient cet été, membres de l'opposition, ou parfois vous-même et vos confrères, sur le thème « Ah, vous êtes des néophytes, etc. », louer le fait que nous sommes en train de nous mettre en ordre de marche pour préparer justement et être capable d'élever le niveau de jeu. Tout ce qu'on a pu dire sur le fonctionnement du groupe ne nous a pas inhibés. On avance. On est assez fiers de ce qu'on est, sans arrogance. On est assez lucide sur les points qu'on a améliorés. Mais franchement, on se donne les moyens.
Et il n'y a pas que face aux médias, vous le disiez, il y a aussi tout le travail législatif que beaucoup doivent apprendre. Et pour ça, on fait appel aux députés qui ont une expérience, qui étaient là avant le phénomène Macron, qui font donc en quelque sorte partie de l'ancien monde, cet ancien monde que dans le discours officiel, En Marche s'évertue à ringardiser.
Stéphane Robert, le plan de transformation de Nokia France est provisoirement suspendu. Une réunion de suivi sera organisée le 2 octobre avec le gouvernement et les syndicats. La procédure de consultation portant sur cette restructuration ne reprendra qu'après. Près de 600 emplois sont menacés. Le repreneur de l'équipementier GMES menace d'annuler la reprise si les salariés continuent de bloquer le site de la souterraine. Dans ce cas, prévient-il, la fermeture serait prononcée et plus aucun emploi ne serait garanti. Ce matin, les premières lettres de licenciement sont arrivées dans les boîtes aux lettres de certains salariés. Selon le plan de sauvegarde de l'emploi, 157 employés vont être mis à la porte. Hugo Charpentier, vous avez assisté à une assemblée générale des salariés à la mi-journée.
Dans un grand atelier où les salariés ont pris l'habitude de se réunir, Vincent Labrousse, délégué CGT, prend la parole.
Ce qu'on aimerait savoir, c'est combien de salariés ont reçu leur lettre de licenciement.
Dans l'assistance, une vingtaine de mains se lèvent, timidement mais avec fatalité. Le bras levé, Bernard Rabotin, salarié depuis 36 ans, a beaucoup de mal à réaliser.
Le jour que je ne reviendrai plus ici, je pense que c'est là où je vais réaliser réellement le problème. Hein. Ça fait mal quand même. Hein. On n'efface pas 36 ans comme ça. Hein. Les collègues, ça fait chier.
Et pour les autres, c'est encore l'incertitude. Aujourd'hui, demain, les lettres de licenciement vont continuer à arriver. Gilles redoute ce moment.
C'est l'angoisse. Moi, je pourrais rentrer chez moi parce que j'habite à même pas 2 km pour aller voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Mais bon, j'ai pas le courage de le faire pour l'instant. Puis on voit les collègues au fur et à mesure qui viennent nous annoncer j'ai le courrier. Ça nous rassure pas pour l'avenir. Hein.
Et en attendant, le risque, c'est le renoncement, la division entre les salariés ou encore l'isolement. Et tout ça, Yann Ogra, délégué CGT, l'a bien compris.
Donc vous revenez à l'usine, parce que les actions, c'est là qu'on va les décider. S'il y a moyen de récupérer une supralégale, c'est ici, ça se décidera.
Même licenciés, les GMS vont continuer à lutter.
Début de procès chaotique cet après-midi à la 14e chambre correctionnelle de Paris. 8 militants d'extrême-gauche devaient comparaître pour avoir incendié une voiture de police le 18 mai 2016 à Paris, alors que 2 policiers se trouvaient encore à l'intérieur. Mais le procès a été suspendu avant d'avoir commencé, en cause notamment une salle d'audience trop petite pour la foule venue suivre ce procès très médiatisé. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
L'ambiance était très tendue cet après-midi au palais de justice.
Effectivement, tendue, le mot est faible. Toutes les conditions semblaient réunies pour réchauffer les esprits, une salle d'audience d'une 50aine de places seulement et une 100aine de sympathisants anarchistes ou d'extrême gauche venus soutenir les 8 prévenus, recalés donc devant la salle d'audience et qui commencent à montrer des signes d'impatience. Une grande salle réclame les militants avant de s'en prendre à des journalistes venus couvrir le procès et en particulier à ceux qui prennent des images.
Il y a des gens qui passent au tribunal à cause de tes vidéos de merde. Casse-toi. Je te lève, on te pète en morceaux. Je te pète ton truc. Je te pète ton truc.
Dégage.
Des journalistes menacés, parfois même brutalisés, la tension est telle que les protestations sont audibles de l'autre côté de la porte, côté salle d'audience. Les avocats dénoncent des conditions de travail qui remettent en cause la sérénité du procès. Le président du tribunal semble hésiter et après 2 suspensions de séance, il prend la décision de reprendre le procès le lendemain dans une salle plus grande cette fois. Maître Jérémy Assous est l'un des avocats de la défense.
C'est le procureur de la République. Les services du parquet qui avaient choisi cette salle alors qu'ils savaient pertinemment qu'elle serait beaucoup trop petite. Ils ont subi ces conséquences, on a perdu une journée d'audience. Plus de 2/3 des journalistes n'ont pas pu rentrer dans la salle d'audience. Que c'était fait de telle manière à ce que vous ne puissiez pas être témoin des conditions dans lesquelles ce procès a lieu. Et si vos confrères n'avaient pas menacé de quitter la salle, il y a de grandes chances qu'on serait encore dans cette salle.
C'est donc demain après-midi que le procès va réellement commencer après cette introduction chaotique en attendant un rassemblement contre... Je cite, la répression est prévue tout à l'heure à 19h devant le palais de justice à l'appel notamment de la députée de la France Insoumise, Danielle Obonneau.
Le campement de Grande-Synthe près de Dunkerque a été évacué ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre à l'abri, selon l'expression consacrée, 500 personnes. Les réfugiés ont été emmenés en bus vers des CAO, des centres d'accueil et d'orientation. Hier, le maire écologiste de la ville avait rencontré le ministre de l'Intérieur. Damien Carême l'avait prévenu qu'il installerait contre l'avis du gouvernement des douches et des sanitaires dans ce campement. Alors Emma Sarango, comment interpréter cette évacuation qui est donc intervenue seulement quelques heures plus tard?
Eh bien, difficile de croire à une coïncidence, hein, même si rien n'est admis officiellement du côté du ministère de l'Intérieur. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que la réunion d'hier a au moins accéléré le processus et finalement ce n'est pas plus mal selon le maire de Grande-Synthe, Damien Carême.
Les gens sont frigorifiés, les gens sont malades, les gens vivent dans la boue depuis des semaines. Et d'ailleurs, eux le demandaient, puisqu'ils sont allés spontanément d'eux-mêmes rentrer dans les bus pour partir se réfugier quelque part parce qu'ils ne tenaient plus. Donc c'était nécessaire sur le plan humanitaire.
Soulagement donc chez le maire Damien Carême, mais du côté des bénévoles, on ressent plutôt la lassitude. Christian Salomé est président de l'association L'Auberge des Migrants qui participait à la distribution des repas sur ce campement.
La réponse du gouvernement, elle est vraiment « dites ce que vous voulez, moi j'agis comme je veux ». Ils seront comme d'habitude envoyés un peu partout en France, déposés dans des centres ou devant une gare et puis ils reviendront. Ce qu'ils veulent, c'est l'Angleterre.
Et c'est justement pour ceux qui reviendront que Damien Carême a demandé au gouvernement l'installation de douches et de sanitaires. Et malgré ce refus, le maire de Grande-Synthe persiste ce soir.
Je suis assez ferme sur mes positions et le ministre ne me fera pas flancher. Donc c'est hors de question qu'il n'ait pas accès à un minimum de dignité avec des sanitaires et des douches.
Et on le sait, Damien Carême est un habitué des bras de fer avec l'État. En mars 2016, il avait décidé l'installation du camp de la Linière sur sa commune en opposition au ministre de l'Intérieur de l'époque. « On ne peut rien contre la volonté d'un homme », avait déclaré quelques semaines plus tard Bernard Cazeneuve en citant la célèbre phrase de François Mitterrand.
Il faudra encore compter avec les nuages demain dans le nord-est, mais dans l'ensemble, le soleil s'imposera. Les températures vont remonter, 15 à 20 degrés maximum sur la moitié nord, 20 à 25 dans le sud.